Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, CFAQ.
Ça part ici.
En direct des studios de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3, c'est la nouvelle saison du deuxième service qui débute à l'instant avec la musique. Et oui, on est bien présent sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver en ce début de 2025 qui démarre sur les chapeaux de roue. On peut dire ça comme ça pour utiliser un bel euphémisme. C'est un euphémisme? Non. Métaphore. Non? Bref, normalement, l'émission devrait être le retour des émissions de fin d'année. Je l'ai écouté hier soir, j'ai fait mes devoirs. Infoman, le bye-bye, plein de notes. Mais là, l'actualité se bouscule, comme on dit. Il y a un certain Justin Trudeau qui a finalement décidé que c'était terminé. Ou en tout cas, il quittera ses fonctions lorsque un remplaçant ou une remplaçante voudra jouer le rôle de Kim Campbell. C'est-à-dire devenir premier ministre par intérim pour à peu près un mois et demi, deux mois. Parce que Justin, en quittant ses fonctions cette semaine, déclenchait bien sûr des élections à son remplacement, à même le parti. Ce qui fait que, de facto, ce remplaçant-là devient le prochain premier ministre. Mais que dès que les gens pourront retourner au Parlement, sur la colline parlementaire, parce que Justin, en quittant, a prorogé le Parlement jusqu'à la fin du mois de mars, et qu'on le dise, là, les conservateurs ont arrêté de chialer que Justin a fait ça, Stephen Harper a fait la même affaire à la fin de son premier mandat, proroger le temps de déclencher les élections. Et c'est ce qui va arriver avec la successeur de Justin. Et comme Kim Campbell en 93, ce sera pour un très très court mandat et probablement beaucoup plus court que celui de Kim Campbell parce qu'il y aura une motion déposée par les conservateurs qui est déjà préapprouvée par Jagmeet Singh et les NPD. Très certainement, le Bloc québécois va suivre, mais c'est sûr qu'il y aura un vote de non-confiance à la seconde où il y aura la possibilité de déposer une motion de non-confiance et on part en élection. Donc, ce qui est assuré, c'est qu'il y aura des élections au printemps 2025. Est-ce que ce sera fin mars? Est-ce que ce sera début avril? Là, on peut miser sur la date. Mais c'est assuré que ce printemps, l'équinoxe du printemps va passer et on sera en élection au Canada. Et de l'avis de plusieurs, et ça c'est où l'actualité se bouscule, la game a changé pour les adversaires aussi. Parce que la prochaine élection ne sera plus sur les déficits records du Parti libéral de Justin, sur la mauvaise gestion du Canada, la perdition du Canada. Ce sera, et on n'en a pas vraiment, la meilleure personne qui pourra dealer avec Donald Trump. Parce que là, et c'est ça qui est important, si le discours essentiellement de Pierre Poilievre jusqu'à il y a trois jours, bon, il continue un petit peu encore, mais jusqu'à il y a trois jours était « Tout est de la faute de Justin Trudeau », ben ce n'est plus le cas. Ce n'est plus maintenant tout de la faute de Justin Trudeau. Il aura commis l'irréparable sur le Canada, mais il ne peut plus s'en aller en campagne électorale en disant « Ne votez pas pour Justin. Je suis le meilleur choix que Justin Trudeau. Ne votez pas pour Justin. » Il n'a plus ce loisir-là. Avec la démission de Justin Trudeau, il se prive automatiquement de ce pas ce droit de chialer, mais de cette carte qu'il a usée à la corde de dire « Tout est de la faute à Justin. » Il va être capable de trouver des nouvelles choses méchantes à dire sur le prochain chef ou la prochaine chef, c'est sûr. Mais il perd sa carte majeure de « Le Canada est brisé à cause de Justin ». Donc déjà là, lui doit revoir l'entièreté de sa stratégie. Parce que c'est bien beau de dire « Oui, monsieur, les mêmes libéraux que ceux de Justin ». Pas nécessairement. S'il y a un nouveau chef, ça ne veut pas dire que ce sera de la même manière. Parce qu'on se souviendra avant les fêtes, avant le spécial de fin d'année aussi, Chrystia Freeland claquait la porte du bureau de Justin parce que lui, voulant être chien en lui disant « Présente la mise à jour économique et sacre ton camp par la suite », ben elle a décidé la journée même de, oui, sacrer son camp, mais en emportant avec elle Justin, étant sa dernière alliée, ou en tout cas sa dernière alliée de taille, le lance en dessous des roues de l'autobus et fait en sorte que, rendu après les fêtes, Justin démissionne. Parce que justement, c'était sa dernière alliée et elle l'abandonne aussi. Beaucoup de gens s'entendent pour dire que si Chrystia Freeland a quitté avec fracas en poignardant tout le monde, c'était pour justement se distancier le plus possible de Justin Trudeau pour que lorsqu'elle arrive à la course à la chefferie, elle puisse dire « Non, 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 je n'étais pas d'accord avec Justin Trudeau. Ce n'est pas ma vision » de comment on devrait gérer le Parti libéral et le pays. Voici ma version des choses. Mais c'était bien sûr un couteau à plusieurs tranchants. Pas juste à double tranchant, à plusieurs tranchants. Tout était coupant dans cette manœuvre-là parce que maintenant, il y a des gens qui sont fâchés contre Chrystia. Pas juste parce que des élections vont arriver un petit peu plus tôt que prévu. Ça a quand même toffé 3 ans et demi sur un gouvernement minoritaire. Je trouve que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été vu un gouvernement minoritaire qui réussit à survivre aussi longtemps. Parce qu'habituellement, c'est 1 an et demi, 2 ans avant de refaire des élections. Mais là, on est rendu à quasiment au terme du mandat qui était donné. Faisant en sorte que, justement, oui, Chrystia s'est distancié en disant « Non, 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 j'ai dit non à Justin Trudeau et comment il m'a récompensé, il m'a mis dehors. » Elle s'est un peu mis dehors, elle aussi, mais il était prévu quand même un remaniement qu'elle allait perdre l'économie de toute façon. Donc, c'était la tentative de Chrystia Freeland. Pour l'instant, au moment d'enregistrer, elle n'a toujours pas annoncé ses intentions de se présenter. Mais évidemment que ça ne se garochera pas avec des candidats sérieux qui pensent vouloir rester dans le giron politique, de vouloir s'en aller se faire battre à la prochaine élection. Parce que oui, il y aura un certain momentum pour le fait qu'il y aura de la nouveauté, mais évidemment que ce n'est pas décisif pour renverser l'entièreté des résultats qui s'en viennent. Peut-être est-ce que ça va faire en sorte que Pierre Poilievre ne finira pas avec 240 députés. Peut-être qu'il en aura seulement 225. Peut-être est-ce qu'il y avait des luttes serrées libérales-conservateurs que maintenant que Justin Trudeau est parti, ça reste libéral. Sauf erreur, dans les derniers sondages, on avait posé la question si Justin se présente, si Justin ne se présente pas. Et dans la catégorie si Justin ne se présente pas, Pierre Poilievre perd 2-3 % en attendant de savoir qui sera le prochain chef. Et des régions un peu serrées, comme par exemple à Toronto, bien, certaines luttes serrées entre conservateurs et libérales restent finalement libérales si Justin ne se présente pas. Là, évidemment, toutes les firmes de sondage ont dû faire des trucs toute la semaine pour avoir un indicateur la semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain. On aura des sondages à l'émission la semaine prochaine. Mais voilà. Donc, Justin part trop tard parce que, justement, il faut faire une course en accéléré à la chefferie pour le Parti libéral pour trouver le meilleur candidat temporaire qui ne sacrifiera pas sa carrière politique parce que, bien sûr, les chances de gagner sont amoindries avec ou sans Justin Trudeau. De toute façon, ça faisait 10 ans que le Parti libéral était en place. Et Paul Martin n'a pas fait longtemps quand il a succédé à Jean Chrétien. Fait qu'il a réussi à faire un gouvernement minoritaire, mais il s'est fait battre à plat de couture parce qu'il venait un peu l'élection d'après. Fait qu'en vain même que par on ne sait pas quel miracle, quelqu'un réussisse à convaincre suffisamment de pourcentage et convaincre suffisamment de circonscriptions où c'est serré à redonner le pouvoir encore au Parti libéral, peu importe qui. Évidemment, on essaie d'être le plus distant possible de Justin Trudeau, mais ça va être tough quand même. Automatiquement, si c'est un ministre, il va être étiqueté à Justin Trudeau. C'est quelqu'un de l'extérieur. Oh mon Dieu, d'où qui arrive, etc., etc. Ils vont tenter de trouver le lien avec Justin Trudeau, les conservateurs. Ça, c'est sûr et certain. Parce que il y aura soirée électorale, c'est sûr et certain. Mais on ne sera pas comme dans les soirées électorales de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan où ça prend une heure avant d'avoir des premiers résultats et quasiment, dans le cas de la Colombie-Britannique, ça a pris 2 semaines. Mais tu sais, on peut déjà dire que les infographies de si la tendance se maintient, ce sera conservateur majoritaire, maximum, ça c'est mon pari, maximum 9h06 et tous les réseaux vont avoir dit conservateur majoritaire. Maximum 9h06. La petite variante qu'il peut y avoir, c'est l'Atlantique. Est-ce que l'Atlantique va voter massivement conservateur ou ce sera un peu réparti et il y aura quelques survivants libéraux? C'est la seule chose qui va peut-être donner le ton dans la soirée. Mais sinon, automatiquement, quand l'Ontario donne ses premiers résultats, on pourra dire que c'est conservateur majoritaire. Parce qu'en ce moment, ceux qui ont le pouvoir de décider entre le Parti libéral et le Parti conservateur, ce sera l'Ontario. Comme dans les années de Stephen Harper, le Parti conservateur n'aura pas besoin du Québec pour régner en roi et maître majoritaire. Parce qu'en ce moment, toujours selon les sondages, oui, le Parti libéral s'effondre, mais pas au profit des conservateurs. Ça reste toujours un plancher de 8-9 candidats conservateurs. Au mieux, ils vont en faire 10, 11, peut-être 12. Mais toute la balance va aller au Bloc québécois. Peut-être pas au point, maintenant que Justin est parti, d'être l'opposition des conservateurs avec 60-70 députés bloquistes. Parce qu'en ce moment, et c'est ça qui est dommageable pour le Parti libéral, c'est que normalement, il est supposé y avoir un plancher d'à peu près autour de 20 % des intentions de vote qui vont de facto au Parti libéral. Parce que, rendus dans l'urne, les gens qui sont non décidés vont habituellement cocher libéral de toute façon. Si les gens ne sont pas convaincus entre libéral NPD bloc, mettons au Québec, ben ça va être libéral, ils vont faire comme bon, c'est correct, là, ça sera ça. Le ça sera ça, les indécis habituellement profitent au libéral. Mais ce prix plancher-là est normalement à 20 % et les intentions de vote pour le Parti libéral est à 15, 16, 17 %. Donc, il est en dessous de son prix de base, de son alliance de base, ce qui est dommageable pour le Parti libéral. Donc, évidemment, d'être capable d'au moins remonter la tête au-dessus du 20 % va déjà être une moins grosse défaite, même si c'est une défaite. Mais est-ce que ce sera suffisant pour avoir un petit peu plus de députés que le Bloc québécois pour être l'opposition officielle? C'est pas dit. Parce que si réellement le Bloc québécois réussit à rentrer de cette manière-là aussi majoritaire, ben ça pourrait donner un gouvernement conservateur majoritaire à 200 plus candidats, 220, 240 candidats, qui va pouvoir avoir le libre loisir de se foutre du Québec pendant 40 ans, parce que de toute façon, son opposition, c'est le Bloc québécois, et à 240 députés, va pouvoir faire ce qu'il veut pendant ces 4 années-là. Mais malgré le fait que la question électorale, la question de l'urne, ne sera plus qui est le meilleur à gérer le Canada plus que qui sera le meilleur à ne pas se faire englober par Donald Trump, ça reste quand même une élection qui va être importante et surtout de voir à quel point Pierre Poilievre va être capable d'arrêter sa partisanerie et de se comporter en adulte et d'avoir l'air premier ministrable et sérieux ou s'il va continuer à juste attaquer Yves-François Blanchet pour aucune raison pendant 40 ans, tout en coupant dans l'entièreté des services du Canada. Donc, c'est pas réjouissant, mais en même temps, est-ce qu'il va réussir à tenir tête à Donald Trump? Parce que si on se fie à Danielle Smith en Alberta, elle qui est complètement à genoux devant Donald Trump et va même assister à son inauguration... Techniquement, Pierre Poilievre a dit qu'il n'irait pas. Mais est-ce que ce sera suffisant pour avoir l'air crédible devant Donald Trump et de répondre à ses caprices? La question doit être discutée quand même. Parce que oui, Donald Trump fait des petites blagues sur l'annexion du Canada, qui ironiquement lui donnerait moins de pouvoir parce que le Canada, on ne voterait pas pour lui de toute façon. Reste qu'on... Il est tellement imprévisible et s'en vient tellement fou dans ce qu'il dit qu'on peut se demander si réellement il va essayer de quelconque manière qu'il peut à vouloir réellement prendre le pouvoir sur le Canada. Ça se fait pas de même. Mais est-ce que réellement Donald Trump veut faire ça ou ça reste quand même dans ses niaiseries qu'il dit? Il l'a répété trop souvent pour pas le prendre au sérieux. C'est sûr que l'économie entre le Canada et les États-Unis ne sera plus jamais comme ça l'était et que probablement l'écart entre nos dollars va s'aggraver encore plus. Donc, c'est pas des bonnes années qui s'en viennent. Ça, c'est sûr que non. Mais l'annexion du Canada pourrait être le 51e État, ce qui ferait en sorte qu'on n'aurait pas été assez au Canada pour donner la balance, pour récupérer la Chambre des représentants, par exemple, parce qu'en devenant un État du Canada, l'État du Canada obtiendrait des pouvoirs de représentant à la Chambre, et donnerait des sénateurs surtout. Et ça, ça serait pas bon pour Donald Trump parce que le nombre de sénateurs qu'on pourrait avoir avec l'État du Canada, ça faisait en sorte que la Chambre restait bleue avec les sénateurs canadiens du 51e État. Mais qu'à la Chambre des représentants, ça faisait également en sorte que Kamala gagnait le vote populaire. Donc, Donald Trump perdait pour la troisième fois le vote populaire si le Canada devenait... Voilà, je l'ai ici. Le Canada, en tant que 51e État, serait le deuxième plus peuplé des États-Unis d'Amérique après la Californie et donnerait au Parti démocrate 47 nouveaux grands électeurs à chaque élection. Donc, 45 représentants au Congrès et 2 sénateurs. Et comment Donald Trump a réussi à gagner le Sénat par 2 voix? Donc, ce serait 52-52 au Sénat en ce moment, si le Canada était un État. La Chambre des représentants, évidemment, qui en manquerait pour battre Donald Trump, parce qu'il y a quand même eu une certaine avance. Mais ça ferait quand même 45 représentants de plus pour Kamala, si on avait été dans cette élection-là. Donc, c'est pas à son avantage du tout, parce que justement, on est comme la Californie, puis on vote bleu. Donc, ce serait du bleu déjà acquis dans une élection américaine. Fait que pourquoi il nous veut tant que ça? Il a même dit en conférence de presse cette semaine, on veut pas leurs ressources, on veut pas telle affaire, on veut pas telle affaire. Mais pourquoi il voudrait tant que ça avoir le Canada si c'est pas des ambitions de vouloir juste agrandir le territoire parce que il est à l'âge qui est rendu? Je sais pas. Genre, il est tellement pas facile à suivre, Donald Trump. Donc voilà, on s'arrête là-dessus. C'était un très, très long segment d'ouverture. On parlera des spéciaux de fin d'année, malgré tout, sur les ondes de CFA 88.3 et de CHIS 94.3. Vous écoutez cette nouvelle saison de 2025 du deuxième service. Voilà pour ça. Soirée du 31 décembre, des cotes d'écoute encore une fois toujours impressionnantes, quoique un petit peu en baisse cette année. On a à peu près, c'était 200 ou 300 000 de cotes d'écoute de moins sur tous les spéciaux. À part En direct de l'univers, eux ont eu 200 000 de plus, mais les gens ont quitté pour Infoman et pour le bye-bye. C'est dommage, Infoman, c'était une bonne édition, rallongée de 30 minutes, et ça n'a pas paru. Au sens où c'est tellement condensé l'actualité que ça passe tellement rapidement et que même avant, quand c'était seulement 45 minutes, ça passait trop vite. Dans ce cas-ci, vraiment une vraie heure complète de télé pour décortiquer l'année. C'était quand même complètement pertinent. Il y a même des choses que j'avais oubliées dans ma revue de l'année. Quand on regardait ou le bye-bye ou Infoman, j'ai dit « Ben oui, c'est vrai, c'est arrivé cette année. » Fait que parce que c'est difficile de faire le résumé de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai l'impression que ça a été bien réalisé du côté du bye-bye d'Infoman. Infoman, ben c'est ça, égal à lui-même. C'était, comme d'habitude, excellent spécial, de super belles trouvailles. On y reviendra. Dans le cas du bye-bye, un peu comme à l'image de l'année dernière, c'est un petit peu plus drôle que par les années passées. Comme je le disais, les années de pandémie, c'était des bye-bye que j'ai haï pour mourir. 2000 à 2022, ces trois années-là, on réécoutera les cassettes, mais c'était pas, mes critiques étaient super tièdes et pas super bonnes non plus. Il y avait, une fois de temps en temps, un bon sketch, mais entrecoupé de 4 mauvais sketchs. Cette année, ça allait. C'était pas une super édition. Comme Hugo Dumas le disait, c'est probablement le bye-bye de trop pour Simon-Olivier Fecteau. Les chances qu'il revienne l'année prochaine s'amoindrissent. Pas juste parce qu'il y a 200 000 de codes d'écoute de moins, mais surtout parce qu'on a fait le tour de la formule de Simon-Olivier Fecteau. Il y a plusieurs sketchs qui tombaient un peu à plat, puis on a dérogé de certaines règles traditionnelles du bye-bye dans celui-là. Et pas juste parce qu'il s'est gardé plusieurs rôles de lui-même dans ce show-là, mais ce serait le temps. C'est son 7e ou son 8e bye-bye consécutif, fait que ça serait le temps d'y aller avec une nouvelle équipe. Peut-être pas nécessairement que des nouveaux auteurs, parce que c'était quand même une nouvelle équipe cette année. Ou en tout cas, il y avait quelques revenants des autres années, mais tu sais, il y avait du nouveau monde autour de la table, ce qui faisait quand même du bien. Mais est-ce que c'était à l'image de certaines autres éditions? Pas nécessairement. Fait qu'un bye-bye correct, meilleur que la pandémie, mais correct. T'sais, au moins, il y avait des pièges. T'sais, je réécoutais aussi la dernière intervention de qu'est-ce qui va se retrouver dans le bye-bye ou dans les spéciaux de fin d'année. Et j'appréhendais un sketch sur Donald Trump, mais finalement, ça a été une ligne tout simplement parce que là, ça aurait été complètement de l'abus. Fait que tu sais, il y a certains trucs que j'appréhendais qui se sont pas produits. Ça, au moins, j'étais content que ça ne s'y retrouve pas par justement des petites blagues un peu faciles ou en tout cas des sujets un peu évident comment les aborder et tout ça. Donc, pour ça, c'était positif que ça n'avait pas été le cas. Et dans le cas d'Infoman, ben voilà, comme je le disais, des belles trouvailles, des beaux segments, des beaux numéros aussi, comme les autres années. Il y a des trucs qui vont rester, qui vont être marquants, notamment le qui a probablement été mon coup de cœur de la soirée, la parodie de Cléopâtre d'Elizabeth Taylor avec Geneviève Guilbeault qui devient Cléopon, avec tous les acteurs de Québec qui déchirent leur chemise pour oui ou non la construction du troisième lien de Cléopâtre qui fera traverser le Nil, etc., etc. Il y avait de super bons flashs là-dedans. C'était pas la première année qu'ils faisaient ça, les numéros de l'actualité, les personnages de la politique qui jouent dans le théâtre d'un vieux film. Il y avait eu, ben, je pense, pour le troisième lien, il y avait eu Ben-Hur il y a quelques années. Sinon, celui que je me rappelle encore, c'est Noé pour la première version du troisième lien avec le bitube. C'est-tu Noé, oui, qui séparait les eaux? Moïse qui séparait les eaux, pardon. Donc, il y avait eu, c'était ça, puis c'était François Legault qui séparait le fleuve Saint-Laurent en deux pour créer le lien à Lévis avec Bernard et Gilles Lehouillier de l'autre côté. Fait que, et voilà, donc Cléopon qui est vraiment le sketch probablement qui a fait le plus jaser. Sur les réseaux sociaux, Cléopon revenait régulièrement dans les coups de cœur de la soirée. Il y en a d'autres aussi, donc on en parlera dans la deuxième demi-heure de l'émission. Sinon, en direct de l'univers, ben, c'est tel que tel, c'est 90 minutes. Le premier numéro, un medley de 41 chansons avec quasiment le double d'acteurs, musiciens qui viennent faire des chansons. France Baudouin a tout le mérite d'avoir une équipe extraordinaire pour cette émission-là. Des belles surprises aussi. On résume l'actualité dans ce numéro d'ouverture-là un petit peu aussi. On fait des clins d'œil à l'actualité, je devrais plutôt dire. Et non, c'était assez complet comme émission. Les intervenants, ben, Louis Morissette, Marthe Laverdière, l'horticultrice, Alexandre Aussant qui joue Mona de Grenoble et Patricia Paquin qui s'est fait canceller sa job dans sa face à une semaine d'avis. Il y a eu d'ailleurs ce clin d'œil-là de « Bon Dieu, donne-moi une job » avec Pierre-Yves McSween et MC Gilles dans ce numéro d'ouverture-là qui ont fait un petit clin d'œil à Patricia Paquin. Fait que voilà, il y avait les trois qui sont fait couper leur job dans leur face en radio cette année. Mais voilà, donc des beaux clins d'œil, un beau spécial d'une heure et demie. T'sais, c'est un vrai party musical qui fonctionne à chaque année. Puis étonnamment, il n'y a pas eu de rediff le samedi suivant. C'était la reprise de l'année passée. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, on joue tous les spéciaux deux fois, mais là, cette fois-là, ça a joué juste une fois. L'année prochaine, j'imagine qu'on aura la rediffusion de 2024. Mais voilà, donc émission réussie pour France Baudouin qui ouvrait la soirée avec 1 700 000, proche du 2 millions certainement dans son cas à elle. Courte pause au retour, la deuxième moitié, on analyse Infoman et le bye-bye sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Donc, bye-bye, Infoman en premier. Infoman en premier. C'est la première émission, donc spécial 90 minutes cette année. On rajoute une nouvelle demi-heure à Infoman et on a donné une demi-heure de coulisses en direct de l'univers qui était franchement intéressant justement de monter ces numéros musicaux-là. Il l'avait fait l'an dernier aussi, fait que c'est pour ça qu'on a reconduit l'expérience des coulisses d'une émission en direct de l'univers avec toutes les surprises, tous les gens, les secrets, les faux chanteurs qui remplacent des personnes qui viendront surprendre. Tu as eu les parents de certains invités qui sont venus les accompagner dans une chanson. Les filles de Scott Price, le pianiste de Céline, qui attendait d'autres chanteurs de l'émission, mais que finalement, c'est ses filles qui rentrent pour chanter, qui a presque manqué ses notes pour faire l'hymne à l'amour avec ses filles. Donc, c'est quand même un beau moment, là, on s'entend. Là. Donc, voilà, donc, qui remplaçait à l'année prochaine l'émission de Ici Première, l'émission d'humour, entre guillemets, d'Ici Première, qui est pour un public beaucoup plus âgé, qui aime ça, les petites parodies politiques dignes d'il y a 15 ans, ben pour la télé, on a décidé de couper cette émission-là. Donc, Infoman en a bénéficié, notamment pour ouvrir avec une parodie à la fois un peu de Céline Galipeau qui, pour présenter tous les pays, donnait les états de guerre pendant la cérémonie d'ouverture. On comprend l'idée, mais tu sais, c'est supposé être festif. Là. Fait que là, on a fait une petite parodie de tout ça, tout en se faisant entrecouper d'Ozumpic, qui était le c'est Ozempic, mais évidemment, Infoman n'avait pas les droits. Mais d'Ozumpic qui venait interrompre à peu près tous les bouts importants et les bouts intéressants de la cérémonie d'ouverture. Donc, on a joué un petit peu là-dessus. T'sais, on s'amuse à taquiner notre patron malgré tout, mais effectivement, la publicité omniprésente des Jeux olympiques à chaque année est un problème. Et surtout pendant la cérémonie d'ouverture, quand il se passe quelque chose d'intéressant, de juste garrocher une pub de Toyota en plein milieu pour tout couper l'ambiance, c'est pas l'idéal non plus. Voivode, cette année, s'occupait de la chanson de l'année. Un petit mix entre Mireille et Mathieu, « Pourquoi le monde est sans amour », avec le texte habituel de « Pourquoi c'est arrivé en 2024 ». Ça fonctionnait quand même. Habituellement, on fait place à la relève, mais on voulait faire un petit clin d'œil aussi. C'est à Gojira, j'espère que je le prononce bien, qui s'occupait, eux, de la partie métal et rock de... ben, métal, c'est du métal. De la cérémonie d'ouverture de Paris. Donc, on a fait ces clins d'œil-là à la cérémonie d'ouverture, parce que ça a été marquant, cette cérémonie d'ouverture-là des Jeux olympiques. D'ailleurs, j'en ai dû faire aller rencontrer Philippe Catherine en France, celui qui a semé l'émoi partout sur la planète en étant Dionysos, tout de bleu couvert dans cette cérémonie d'ouverture-là. Évidemment, ben, il y a eu... puis pour la chanson d'ouverture, j'aurais mis les paroles dans le bas. Tu sais, je pense que les autres années, on mettait comme le bout de karaoké des paroles. Je l'aurais rajouté parce que des fois, du métal, c'est dur à comprendre. Il y a eu un petit mémoriam de Justin parce que la journée où ils allaient enregistrer leurs entrevues de Noël avec Justin Trudeau, ben c'est la journée que Khrushchev démissionnait. Fait qu'il n'y a pas eu d'entrevue avec Justin Trudeau. D'ailleurs, personne n'a eu d'entrevue avec Justin Trudeau à part c'est 22 Minutes au Canada anglais qui est un peu le pendant du Canada anglais d'Infoman qui, lui, a réussi à avoir son entrevue avec Justin parce qu'elle avait été filmée 2 ou 3 jours auparavant. Et ça aura été la seule apparition de Justin Trudeau dans n'importe quelle émission de fin d'année de Noël à travers le pays. Parce que, évidemment, il était parti en réflexion. Le flash extraordinaire qui a été ben, le premier coup de cœur de la soirée, c'était d'aller voir Julie Bertrand et Régent Tremblay en Floride pour parler de la saga des iguanes. Heureusement que Jean-René expliquait un peu c'était quoi cette vidéo-là de la femme à Régent Tremblay, complètement folle, à Denis Lévesque, sur Internet, qui dit « Moi, les iguanes, le tient dessus, ils m'énervent. » Fait que cette vidéo-là, si on n'est pas sur Internet, on n'a aucune idée c'est quoi. Donc, rendu au bye-bye dans le dernier 15 minutes, si on n'a pas vu cette vidéo-là, on ne sait pas trop pourquoi Régent Tremblay se ramasse dans le bye-bye à ce moment-là. Donc, là-dessus, heureusement que Jean-René Dufort est venu faire des petites précisions et de justement rencontrer l'Iguana Police de Floride, parce que c'est réellement un vrai problème de population d'iguanes trop nombreux, que si au moins la Julie l'avait expliqué à Denis Lévesque, elle aurait eu l'air peut-être un petit peu la moins folle, mais non, elle a oublié comme la mise en contexte. Fait que ça donnait une madame un peu trop excitée qui dit « Moi, sur l'autoroute au Québec, ça m'énerve de conduire juste 120, je roule plus vite que ça, m'en fous d'étiquette. » Il y a des bouts de domaine que tu te dis « Ouais, tu t'aurais pu... t'aurais pu choisir ce que tu comptais. » Dans les bons sketchs aussi, dans la tête à Denis Coderre avec Antoine Vézina qui, tentait de contrôler le message de Denis, mais bien sûr, ça n'était pas réussi. Donc après la tête à Céline, on allait dans la tête à Denis Coderre. Ça fonctionne, mais voilà, Denis Coderre est encore là. Pierre Poilievre va peut-être pas pogner le bout que Jean-René riait de lui à propos du gros bon sens. Et d'ailleurs, ça donnait droit à la comptine avec Sylvie, qu'on a ressuscité pour raconter dans le monde de licorne et d'arc-en-ciel du gros bon sens, comment Pierre Poilievre allait arrêter la criminalité, allait construire des logements, couper les taxes, etc., etc. Parce que quand il serait élu, il n'y aurait plus aucun problème, jamais, au Canada. Non, non, non. C'était cute, la petite comptine, ceci dit. Hommage à Paul Oud, par la suite. Bon, il y a le maire de Louisville aussi, bon, qui a été plusieurs reprises dans l'actualité, notamment le dindon en début d'année, les inondations par la suite. Voilà, l'hommage à Paul Oud et à Nostradamus. Malheureusement, Nostradamus avait prédit que Justin ferait les élections. Elle s'est trompée de quelques semaines, puisque ben, Justin a démissionné cette semaine. L'éclipse, Charles Tissère qui n'en revient pas, qui en revient toujours pas de cette éclipse-là, d'y avoir assisté. On fait un petit résumé de cette journée-là. Valérie Plante qui quitte. Émilise Lessard qui a quitté. Le montage glorieux de toutes les insultes qui ont fusé de toutes parts au Parlement sur un petit beat, ou en tout cas, et à Québec et à Ottawa, ce montage-là qui donne une année très, très triste, disons ça comme ça, pour le contexte politique de Kamala Stone-Cohn aux États-Unis versus vous êtes des pleins de marde au Canada. C'est le ton qui était donné en politique cette année. Et ce qui était bien après ça, c'est que Poilievre soulignait le fait que oui, la partisanerie a des limites, mais que dans ce cas-ci, c'est pas vrai qu'il allait devenir chum avec Trudeau. Fait que c'est normal que ça soit ça, qu'on insulte tout le monde, qu'on insulte l'adversaire. C'est normal qu'on fasse ça. C'est ça, le thinking de Pierre Poilievre. Greg Fergus avec le comédien des armes, bon, c'est tel que tel. Luc Langevin qui fait un tour de magie à Duhem et Ruba Gazal pour être capable d'expliquer que oui, Duhem va dire quelque chose et Ruba va dire quelque chose d'autre, mais bon, oui, il y en a un qui est beaucoup plus à droite, l'autre beaucoup plus à gauche, mais ils sont capables à un certain moment de s'entendre. C'est un beau petit parallèle, c'est cute comme segment. Cléopon, voilà, on continue l'hommage à ce bout-là. Et également, ben, la saga du troisième lien de « il y en a un, il n'y en a pas, on attend la CDBQ dit qu'on n'en a pas, parfait, François Legault sort pour dire le lendemain qu'on va le faire. » Et ce qui était un bon segment aussi que François Legault a eu juste l'air assez fou, c'est qu'il essaye d'ironiser parce que Jean-René lui dit que le pont de Québec, ben, les deux, c'est jamais arriver tant que ça que les deux ponts aillent à fermer simultanément ou en tout cas qu'il y ait eu besoin de fermer de façon majeure les ponts de Québec et que les liens étaient obstrués. Et là, François Legault qui essaie d'être comique, puis comme « Ben voyons donc, M. Dufort, j'en reviens pas que vous disiez que le pont ferme jamais, ça n'a pas de sens, avant de couper » à une station de Bruno Savard du Téléjournal de Québec qui expliquait que techniquement, les ponts ont fermé au total moins de 24 heures en 20 fois sur 54 ans. Donc effectivement, François Legault, les ponts ne ferment pratiquement jamais. 20 fois en 54 ans. Et ça a duré moins de 24 heures. Ces 20 fois-là additionnés. Meilleure chance la prochaine fois. Allons-y rapidement parce que je manque de temps. Le drone de Soccer Canada pour espionner le bye-bye, j'ai pas tout à fait compris. Je comprenais l'idée que le drone allait espionner d'autres choses, mais qu'en plus, le drone fasse une apparition dans le bye-bye. Si on a manqué Infoman, on manque la joke du drone. Il y a eu des bandeaux d'images de l'émission en Taïwan. Il y a eu la parodie de Fitzgibbon avec Marc Labrèche et Jean-René Dufort déguisé en Pierre Fitzgibbon avec Pierre Fitzgibbon et Paul Arcan, bon, des champions de Baboon. On a fait un record mondial de cravates avec Marois Risky qui quitte sous la supervision de Fadi Daguerre de la police de Montréal et de Pierre-Yves McSween, compteur professionnel. Bon, on a essayé d'expliquer le contexte de la frontière à François Legault, puis il a comme réalisé des affaires. Les faux chantiers de Montréal, c'est un beau test. On a inventé des chantiers de construction avec Jean-Né Dufort et MC Gilles qui ont juste déplacé des cônes. Sur les trois faux chantiers, il y en a un qui a été démantelé, les deux autres sont encore là. Et tout en ayant en background Valérie Plante qui dit « Non, on va s'améliorer sur les chantiers. » C'est mieux que c'était avant, tout en ayant encore les images des faux chantiers qui, jusqu'à la date, à l'heure limite de remise du spécial Infoman, il était encore là, il y avait même neigé dessus. On fait une courte pause au retour, on complète rapidement le bye-bye sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bon, rapidement, parce que oui, je vais manquer de temps, j'ai pris trop de temps à sa politique, mon Dieu, Colin. Je voulais pas. Le rigodon de Pierre-Yves au vidange, c'était pas bon. J'ai pris la peine de mettre les sous-titres pour comprendre toutes les paroles. C'était pas sa meilleure. Déjà, je suis pas fou de client des chansons originales dans les bye-bye, celle-là. C'était pas la meilleure. Puis pourquoi ils ont pas mis les vrais comédiens? Ils ont juste mis les visages des autres comédiens sur les acteurs qui étaient présents. Ils étaient où les trois autres cette journée-là? Je pose la question. Pourquoi qu'ils ont juste pas mis dans le numéro? Ça fait pas de sens tant qu'à moi. On ouvrait avec une parodie des publicités de Belle pour un peu résumer toutes les fraudes qu'il y a sur Facebook en ce moment avec Carmen Sylvestre. Ça faisait la job, c'était bien. Le casino de Fitzgibbon et de François Legault, c'était bon. Je partage l'opinion de Hugo Dumont que ça aurait pu être une petite affaire plus courte qui crie après Nordvolt sa roulette russe. C'est une roulette russe sur la roulette, point. C'était comique. Les armes, parodie du show que, bon, on a des problèmes de budget, les costumes fit pas. Il faut avoir entendu toute cette saga-là autour de la production de Fabienne parce que sinon, on peut peut-être manquer beaucoup de gags. Et ça, je peux peut-être le reprocher au bye-bye cette année. C'est arrivé à deux, trois occasions que les comédiens qui jouaient des rôles, on les reconnaissait pas ou on le savait pas c'était qui. Tu sais, Vincent, dans le cas des armes, je me doute que c'était peut-être voulu parce que justement, on n'avait pas de budget et que Yannick Demartino venait jouer Vincent Guillaume-Otis qui a aucune ressemblance entre les deux gars puis qui doit préciser au début de la scène qu'il est Vincent Guillaume-Otis. Peut-être, est-ce que c'était pour la blague, mais j'ai pas compris, la ressemblance n'était pas là. Le même reproche que je vais faire, c'est à Pierre-Yves Roy-Desmarais en Gilles Latulippe. Faut savoir que c'est Gilles Latulippe parce qu'on sait pas donner beaucoup de chance pour qu'il y ressemble. T'sais, on comprend après ça avec le fantôme de Suzanne Lapointe qui vient narguer le voisin gossant qui a fait fermer la tulipe. Ça, je l'ai oublié d'ailleurs dans ma revue de l'année. Dans ma revue à moi. On comprend que c'est Gilles Latulippe qui fait du cabaret avec Claude Blanchard à la fin, mais Pierre-Yves ressemble pas beaucoup à Gilles Latulippe ni à Blanchard, même s'il y avait des lunettes. Fait que, tu sais, Suzanne Lapointe, étonnamment, ça allait. Mais les deux autres, je sais pas. Il manquait quelque chose pour qu'ils ressemblent davantage. Est-ce qu'on a eu une amputation de budget pour qu'on avait moins de prothèses, moins de costumes? Je sais pas, mais ça s'est répété à quelques occasions dans le bye-bye. Puis ça, malheureusement, ça me manquait un petit peu. Survivor Ottawa avec Justin qui réussit à survivre de toutes les putschs contre lui. Encore une fois, ironiquement, ben, il lâche sa job quelques jours après le bye-bye. Et une règle, encore une fois, qui n'a pas été respectée. On a demandé à Patrice Bélanger d'être son propre rôle. Normalement, ça aurait dû être ou Pierre-Yves Roy-Desmarais ou Claude Legault qui l'interprète. Pourquoi ça a été l'original? Puis même dans les coulisses, il dit, Simon-Olivier Fecteau, on fait pas ça d'habitude, mais on trouvait ça intéressant d'avoir le vrai. Non, moi, j'ai haï ça qu'il y ait le vrai. Ça aurait dû être une parodie, lui aussi, de Patrice Bélanger, quitte à faire rentrer quelqu'un d'autre qui fait Patrice Bélanger. Ça aurait pu être Jean-Guy Jodoin qui fait Patrice Bélanger, parce qu'il y aurait eu un clin d'œil de... Il a remplacé à Sucré-Salé, fait que là, il le remplace dans Survivor. Je sais pas, mais ça ne fonctionnait pas, tant qu'à moi, avec le vrai Patrice Bélanger. Bon, il y a un petit... On a rajouté Christopher Lynn aussi, c'est vrai, dans ce sketch-là, parce qu'elle n'a aucun rapport dans Survivor, mais parce qu'elle a démissionné probablement dans les dernières journées de tournage. On a mis une belle robe mauve à Guylaine Tremblay et tiens, tu es Christopher Lynn. Ironiquement, elle ressemblait quand même beaucoup. Fait qu'il y avait du budget là-dessus, mais Gilles Latulippe, on en a manqué. Je le sais pas. Il y a un insert du casino qui la roue continue de tourner que Fitzgibbon sac son camp. OK. Desjardins, il y avait des bonnes lignes pour l'hommage. Pour la journée des Patriotes, mais qui a un drapeau du Canada. Donc, Desjardins se sacre de sa clientèle québécoise depuis son bureau de Toronto. Il y avait des bonnes lignes dans celui-là. Tu sais, des bons petits gags un peu méchants. C'est là-dedans qu'ils se retrouvaient. La chanson d'Arnaud Soli, c'était pourri sur l'éclipse. L'après pas de match et les plugs abusés de Salvatore, la pizza pas mangeable sur TVA Sport et les autres émissions de TVA. C'était excellent. Ce bout-là, il était drôle. Puis c'est vrai que la pizza de Salvatore est pas mangeable. Éditorial. Les chefs avec les appendices. Donc, c'est eux le groupe d'humoristes invités cette année. Ça fonctionnait. Les gags méchants sur Élise Marquis, c'était méchant. Mon linge est lait, je pose des questions connes et je sers presque à rien dans cette émission-là. On était sur le bord de répéter l'expérience avec la publicité de AEW de « Ma carrière marche pas, je suis un mauvais comédien ». Fait que Élise Marquis, c'était limite. On sait qu'elle a de l'humour, mais je sais pas à quel point elle a apprécié le fait qu'on dise que ses blues étaient désagréables à regarder. 1995, c'est tel quel. C'est Jean-Carl Boucher qui joue Jean-Carl Boucher. C'est... Sandrine Bisson qui joue Sandrine Bisson, fait que c'était pas bon. Ricardo qui joue Ricardo, c'était pas bon. J'ai pas aimé ça. Ben, il y avait des bonnes lignes, c'est ça le pire. Il y avait des bons gags cachés au travers de tout ça, mais des tels quels, avec les acteurs qui jouent leur propre rôle, ben techniquement, c'est les acteurs qui jouent la famille Ricardo dans 95, qui jouent 95, qui jouent le bye-bye. Il y a trop de niveaux, ça n'a pas rapport, c'est pas super bon. Pourquoi c'est là, je ne sais pas. Se planter avec Marthe. Donc, on réutilise Guylaine Tremblay qui faisait Marthe Laverdière l'année passée avec Guillaume Lemaitre-Vierge que Guylaine Tremblay faisait aussi il y a 2 ans et il y a 3 ans pour chanteur caché, que je ne sais pas comment il l'avait appelé. Correct, mais ça tournait en rond beaucoup trop rapidement. Boom Desjardins qui chante Boeing avec encore Simon-Olivier Fecteau qui se garde un rôle, c'était pas bon. L'homme ou l'ours, est-ce que les femmes préfèrent l'homme ou l'ours? Ça finit en gag de l'ours met du miel sa graine. C'est moyen drôle. Céline Galipeau et Sophie Thibault qui font les nouvelles avec Richard Martineau. Qui vient dire « Ça n'a pas de bon sens que vous payez ça avec vos taxes » tout en prenant le chèque de Radio-Canada pour faire cette parodie-là de lui-même. C'est tel que tel. C'est cute, Richard, ta fausse face fâchée. What a Bedford, c'était correct, mais il faut avoir suivi l'actualité parce que c'était très niché. Beetlejuice avec Geneviève Guilbeault, correct. Malheureusement, Sarah-Jeanne Labrosse avait plus de l'air de Hubert Lenoir d'un parodie d'Hubert que de Geneviève Guilbeault. Poilievre qui dit oh, rien d'autre que Trudeau, ça n'a pas super bien passé. Le 4 minutes et demie de Bonne année, c'était interminable. Régent Tremblay, Julie Bertrand, fallait avoir vu la vidéo. Contrat de gars, ça ne marchait pas. Quel talent, c'était correct, sans plus. Le bye-bye, il a fini là-dessus. Merci, à l'année prochaine. C'est un bye-bye correct, essentiellement. C'est là que ça se termine. On se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine, pour le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut.